Nous partons maintenant en Ukraine avec cette attaque massive de la Russie. Vladimir Poutine qui poursuit sa guerre dans les airs avec cette nouvelle puissante attaque nocturne. 600 drones et missiles lancés sur l'Ukraine la nuit dernière sur plusieurs régions d'Ukraine. Vous le voyez, quasiment aucune n'a été épargnée. Écoutez ce qu'ont vécu les habitants de la capitale cette nuit. Pour parler de ces événements en Ukraine, on est avec Alla Poesi. Bonsoir Alla.
Bonsoir Émilie, bonsoir tout le monde.
Vous êtes franco-ukrainienne, consultante en développement international. Merci d'être avec nous. Marion Bûcher, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne pilote de Mirage 2000. Vos lumières vont être très précieuses, notamment sur ces attaques de drones. Nicolas Tenzer, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des questions géostratégiques et enseignant à Sciences Po. Et Cyril Amours qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
On vous voit plus souvent en Ukraine que sur les plateaux.
Ces derniers temps.
Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant Ukraine BFM TV, reporter de guerre franco-russe. On a vu cette attaque massive qui a eu lieu la nuit dernière contre l'Ukraine. Elle a duré plus de 12 heures. Au moins 4 personnes ont été tuées dans la capitale, dont une enfant de 12 ans, et plus d'une quarantaine ont été blessées dans tout le pays. On le sent à Alla Poesi, il y a une montée des violences de plus en plus fortes. On parlera des incursions de drones un peu partout en Europe, mais là, ça a entraîné des morts, notamment en Ukraine.
L'Ukraine pleure aujourd'hui cette petite écolière de 12 ans qui était sportive, qui était une jeune, qui voulait faire des voyages, qui voulait vivre heureuse. Et malheureusement, un missile est arrivé directement dans l'appartement où elle vivait. Et elle était tuée sur le coup, sa maman est à l'hôpital. Donc encore une tragédie humaine qui continue tous les jours. Nous avons les victimes civiles de cette attaque barbare ukrainienne. Donc, on n'attend pas de Poutine. Aujourd'hui, on a bien compris que voilà comment elle veut la paix. Il nous l'exprime tous les jours par ses attaques, par la privation de la population ukrainienne de l'accès tout simplement à l'électricité et aussi la complication suprême de la vie. Toujours en attendant, en espérant, en vain, bien évidemment, que les Ukrainiens, à un moment, vont se lasser, vont supplier d'arrêter les souffrances et vont continuer, vont demander de capituler pour ne plus subir. Mais ça n'arrivera pas.
On voit sur cette carte toutes les régions qui ont été touchées. Cyril Lamourski, vous connaissez l'Ukraine aussi par cœur. Vous y êtes beaucoup allé. On le voit, ce sont beaucoup de régions qui ont été touchées, comme pour montrer aux habitants de l'Ukraine que rien n'est épargné, finalement. Personne n'est en sécurité quelque part.
Oui, tout à fait. On a vu des frappes non seulement à Kiev, mais aussi dans la région de Kiev. On a vu des frappes également dans la ville d'Odessa, dans la ville de Zaporijjia. Et d'ailleurs, c'est à Zaporijjia qu'il y a eu le plus de blessés. Au total, je crois que le président ukrainien a parlé d'à peu près 80 blessés, 4 morts, tous dans la ville de Kiev. Et ma famille, elle vit juste à côté de Kiev, à vrai dire à 1 kilomètre de la ville. Et juste à côté, il y a une autre commune qui s'appelle Petropavlovsk-Bolchevka qui a été touchée. Il y a eu plus de 20 blessés rien que dans cette commune-là. Et une fois de plus, je rejoins tout à fait ce que dit Madame Poesi. Cela montre plus ou moins quel est le message de la Russie. On a eu des tentatives, notamment pendant cet été, au mois d'août, avec des conversations entre le dirigeant américain et le dirigeant russe. On a eu ensuite une rencontre entre le président américain et le président ukrainien. Et après ces rencontres, apparemment, les dirigeants russes et américains se sont dit que une rencontre pourrait être possible peut-être à trois, avec Monsieur Zelensky, Trump et le président russe, ou bien peut-être entre Zelensky et Poutine, finalement. Un mois et demi plus tard, on voit qu'on est toujours au stade zéro de la négociation, on est toujours au stade zéro de la trêve, et on voit que l'horreur en Ukraine, elle continue. Là, on parle de cette frappe, mais au cours des dernières semaines, on a vu qu'il y a eu également des frappes avec des centaines de drones et de missiles qui sont utilisés.
Bien sûr,
et
on rappelle que ça ne s'arrête jamais.
Ce sont les civils, bien sûr.
Vous parliez de Kiev il y a un instant, on va écouter le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, qui s'est exprimé ces dernières heures.
C'est un exemple supplémentaire du génocide perpétré par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, contre la capitale ukrainienne. pour tuer des personnes pacifiques et détruire des quartiers paisibles dans notre ville natale. Tout le monde espère un moyen diplomatique de mettre fin à cette guerre. La Russie dit que seuls des objectifs militaires sont visés par ces attaques, mais regardez combien de personnes sont mortes. Plus de 300 civils tués dans notre ville depuis le début de la guerre. Je ne crois pas que les Russes veulent mettre fin à cette guerre.
Marion Buchet, c'est vrai que les chiffres donnent le tournis. 643 moyens d'attaque aérienne détectés en une seule nuit. C'est quasiment impossible à arrêter quand on sait qu'il y a quasiment eu 600 drones de combat de type Shahed lancés sur l'Ukraine.
Oui, les chiffres qui sont donnés sont de 595 drones et 48 missiles.
Oui, vous êtes bien plus précise que moi, c'est vrai.
Oui. Comme ce qu'on voit assez régulièrement dans ce type d'attaque, on a une tactique de saturation de l'espace aérien, puisque effectivement il va y avoir un problème déjà d'identification de toutes les cibles. Être sûr que ce qu'on identifie comme une cible nécessite d'être détruit, et après la nécessité de détruire tous ces projectiles qui arrivent en même temps, et donc c'est ça qui rend les choses compliquées. En ce qui concerne les cibles, pareil, on retrouve le ciblage de populations civiles.
Oui, on le voit, quand on voit ces images, on voit bien que ce sont des habitations qui ont été touchées, des résidences entières. Oui. Il ne s'agit pas du tout d'objectifs militaires, là, quand
tout
on voit
fait,
ces images. Tout
à fait, c'est très régulier sur le conflit ukrainien, et aussi des infrastructures énergétiques. À l'approche de l'hiver, évidemment, ça va commencer à être extrêmement compliqué aussi pour les populations et toucher leur morale. Mais les Ukrainiens ont un système de radar de veille extrêmement développé, ce qui leur permet aussi de voir ces attaques, de pouvoir prévenir les populations qui, malgré...
C'est plus dur à voir la nuit ?
Sous les drones.
Ouais, alors oui. Après, ils ont un système de radar qui fonctionne aussi la nuit, mais c'est vrai qu'ils
ont. Parce qu'on entend beaucoup. C'est régulièrement la nuit que ça se passe. On entend beaucoup parler d'attaques nocturnes. Oui. Est-ce que c'est parce que justement on peut être surpris plus facilement et donc que les drones vont être moins arrêtables?
En fait, les Ukrainiens avaient mis aussi un système de boucles de prévenance, et notamment les drones qui s'entendent. La population ukrainienne avait mis en place un système où ils pouvaient signaler ce qu'ils pouvaient observer ou entendre. Donc ça, c'est vrai que quand les gens dorment, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Après, les radars, eux, vont détecter quand même la nuit. On sait qu'il y a des pics des baisses de vigilance chez les opérateurs entre 1h et 4h du matin. Bon, ça, c'est assez physiologique. Donc, on sait aussi que planifier des attaques à ce moment-là permet d'avoir en face des gens qui sont peut-être moins alertes aussi.
Lors de mon dernier voyage à Kiev, j'étais sous une attaque de drone et j'ai observé par ma fenêtre, d'une manière assez imprudente, mais j'étais très curieuse et j'ai eu du mal à voir le drone parce qu'il est tout noir, il est immense. Mmh. On entend le bruit, mais on le cherche parce que justement la nuit, c'est très compliqué de les voir. Et ça complique la tâche aussi de la défense aérienne, parce que même ils mettent les projecteurs très puissants dans le ciel, on les voit à chercher. Mais c'est la difficulté est parce que les drones sont noirs dans le noir. Vous voyez, comme chercher le chat noir dans une chambre complètement...
Et puis ça peut entraîner encore plus d'angoisse chez la population, puisque c'est aussi la volonté de Vladimir Poutine de frayer toute une population.
Non, mais vous l'avez dit, c'est-à-dire que la stratégie est vraiment de saturer l'espace aérien ukrainien. C'est ce qui se passe, c'est pour ça qu'ils envoient des centaines de drones. Et je ne vais pas prendre la parole d'autres intervenants, mais tout simplement pour dire qu'en fait, les Russes ont commencé depuis plusieurs mois de peindre justement les drones en noir pour qu'ils ne puissent pas être vus plus facilement dans le ciel. Donc les Russes s'adaptent aussi à ce genre de choses.
Ça semble un peu simple finalement, mais ça fonctionne.
Et ça marche malheureusement parce qu'effectivement, Madame Poutine l'a dit, on utilise régulièrement des projecteurs. Quand moi je suis à Kiev et que je suis justement chez moi, je vois régulièrement ces projecteurs en train de chercher ces drones parce qu'on ne les voit pas en fait dans un ciel qui est noir, en fait, dans la pénombre, on ne peut pas les voir.
Nicolas Tenzer.
Oui, enfin, je pense qu'il faut surtout réfléchir à ce que tout cela signifie et ça doit supposer aussi en termes, je dirais, d'action de notre part. Parce que, je dirais, les attaques, on le voit contre les civils, ce sont des attaques depuis le début de la guerre. Et même quand je dis depuis le début de la guerre, c'est vraiment depuis 2014. Parce qu'il ne faut jamais oublier que cette guerre, elle dure depuis 11 ans et demi. Alors, elle est évidemment beaucoup moins forte que depuis le 24 février 2022. Mais il y a une volonté de tuer, d'assassiner, toujours encore, de Poutine, qui est tout à fait évident. Je rappelle toujours Mariupol, les estimations aujourd'hui sont de 70 000 civils assassinés par les Russes. Ce sont des sommes, des chiffres absolument considérables. C'est plus de 100 fois Oradour-sur-Glane. Donc c'est ça qu'il faut percevoir. Et on voit qu'il veut continuer. Il a d'ailleurs décidé très clairement de continuer sa guerre jusqu'au bout. Il n'imagine que une Ukraine soumise ou détruite. Et donc devant tout cela, je pense que les dirigeants européens et occidentaux doivent s'interroger. Est-ce que l'inaction, à un certain moment, le fait qu'on ait refusé, qu'on n'ait pas voulu, pas qu'on n'ait pas pu, mais qu'on n'ait pas voulu fermer le ciel ukrainien, est-ce que ce n'est pas de notre côté une forme de culpabilité qui doit nous hanter au plus profond de nous-mêmes? Je veux dire, c'est quand même, ce sont ces questions-là qu'il faut à un certain moment poser, parce qu'on peut pas dire on assiste au massacre entier d'une population comme on avait assisté avant au massacre de la population tchétchène, au massacre de la population syrienne.
Voilà, et voilà, qui parlait de génocide.
Voilà, exactement. Et non, mais il y a eu un génocide, la déportation d'enfants en vertu de la convention du 9 décembre 1948, c'est un crime de génocide. Et quand vous avez des enfants ukrainiens qui sont déportés en Russie, qui sont russifiés, que l'on prive de leur identité, que l'on prive de leur culture, c'est un génocide. Et un génocide, ça suppose de près la même convention, un devoir d'intervention. Et donc là, je pense qu'il y a une responsabilité. Et qu'on ne peut pas, à un certain moment, dire, voilà, on reste, ah oui, peut-être. Vous avez ce discours, à un certain moment, il faut ramener Monsieur Poutine à la table des négociations.
Impossible.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de négociation. Il y a un certain moment, il va falloir défaire la Russie. Et il faut quand même appeler les choses par leur nom. Défaire la Russie, ça suppose de s'engager.
Oui, on va parler de la réaction qu'on peut avoir, nous, pays européens, mais je voudrais qu'on fasse entrer dans la discussion Guillaume Lascandjareas. Bonsoir. Vous êtes historien militaire, professeur à la Sorbonne Université. Merci d'être avec nous. On a quelques chiffres précis sur ces 593 drones de combat de type Shahed qui ont été lancés sur l'Ukraine. 2 missiles aéro-balistiques Kinjal, 38 missiles de croisière, 8 KH-101, vous me dites si je fais une erreur, et 8 missiles de croisière calibre. Visiblement, enfin, c'est ce qu'on entendait dire, la Russie a lancé une attaque combinée. Ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile à arrêter lorsque l'on fait face à une attaque comme celle-ci?
Alors, effectivement, ce que vous citez là, en réalité, ce sont les derniers nés de l'arsenal militaire russe. Quand on cite le Kinshan, donc le nom de code poignard, c'est un missile hypersonique, donc par sa trajectoire extrêmement difficile à arrêter. Le calibre, lui, a une particularité, c'est qu'il peut être à la fois tiré depuis la mer, mais aussi depuis la terre ou depuis les airs. C'est-à-dire, en fait, on a une combinaison de modes d'action qui permettent de saturer, comme ça a été très bien dit, la défense ukrainienne, mais surtout, en réalité, de frapper de multiples fois et surtout de désorienter une défense ukrainienne aérienne dont on sait que régulièrement elle est mise à contribution. Zelensky, depuis des mois, réclame des systèmes d'armes patriotes, réclame justement la protection du ciel ukrainien. Et je rejoins un peu ce qui a été dit aussi par Nicolas Tenzer et par les autres intervenants, on ne lui donne pas. C'est-à-dire qu'en fait, ces moyens-là sont des moyens extrêmement durs, extrêmement finalement criminels, et tout ça en plus pour s'adresser à des infrastructures civiles. Donc en fait, on a une forme de aussi de l'industrie russe à poursuivre aussi son effort de guerre. Construire ces missiles, ça prend du temps.
Vous avez raison, Guillaume Lascandjareas, c'est vrai que on en parle depuis des mois, on se demandait quelle était la capacité de production de la Russie quand on voit qu'elle a lancé à nouveau presque 600 drones de combat de type Shahed, on a le sentiment que ça reste toujours illimité.
Alors, pour les drones, c'est un peu plus, je vais presque dire, facile, parce que vous avez des usines d'assemblage. Alors, le Shahed, en réalité, aujourd'hui, s'il est d'origine iranienne, il est fabriqué la plupart du temps. Il vient d'Iran, mais il est fabriqué en Russie. En revanche, pour les missiles, c'est là où c'est plus inquiétant, parce que on s'attendait à ce que justement les chaînes d'approvisionnement, notamment avec des puces, avec des systèmes qui sont particulièrement précis, soient asséchées, et ce n'est pas le cas.
Oui, Thierry Arnaud, c'est vrai que c'est une crainte qui monte aussi du côté des pays de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, où on se disait, bon, finalement, toute cette industrie russe, elle va s'effondrer, mais la preuve que non.
Oui, ce qui est inquiétant pour les Européens comme pour l'Ukraine, c'est que tout ça est en train de changer d'échelle en réalité. Ces attaques avec plusieurs centaines de drones et plusieurs dizaines de missiles parfois, on a vu trois depuis le début du mois de septembre. Et à cette échelle et avec cette ampleur, c'est sans précédent. Donc ce que ça démontre, c'est qu'il y a une capacité russe à produire en grande quantité, de manière régulière et de manière de plus en plus importante quantitativement. Et donc, il y a une espèce de course entre la Russie qui produit de plus en plus et qui, par conséquent, a les moyens d'attaquer de plus en plus avec des nombres de projectiles de plus en plus importants, et en face, effectivement, l'Ukraine et ses soutiens qui courent un peu derrière, en quelque sorte, pour essayer d'avoir les réponses nécessaires. Et le risque pour l'Ukraine, c'est qu'à un moment, faute d'avoir des moyens suffisants, ce système de défense qui, malgré tout, est relativement efficace, parce que les chiffres qu'on entend ce soir sont évidemment épouvantables, les morts et les blessés. Mais on se dit que, compte tenu du nombre de drones et de missiles qui ont été tirés, ça aurait pu être largement pire.
Donc, 611 cibles aériennes, voilà. C'est l'armée ukrainienne qui précise.
Donc, au moment où on se parle, le système, et encore une fois, on le dit, c'est épouvantable de dire ça alors qu'il y a des morts, mais le système est encore, au moment où on se parle, très efficace. Mais le risque, c'est qu'il s'épuise, et c'est ça, évidemment, que cherche la Russie.
C'est la crainte qui monte en Ukraine, Cyril Amorsky.
Elle monte. Après, il faut savoir que, par exemple, cet été, il y avait le sujet des Patriotes, où les États-Unis, justement, avaient dit apparemment à l'Ukraine que non, ils ne vont même pas vendre. C'était quand même ça, le sujet, c'était pas de faire un cadeau. L'Ukraine était prête à acheter des systèmes Patriotes pour plusieurs dizaines de milliards. Et les États-Unis, à ce moment-là, avaient renoncé. Apparemment, la position américaine a changé depuis.
Et ils
les
Ukrainiens ont livré.
Oui, apparemment, c'est vrai, ça a été fait notamment avec le pèlerinage des Juifs hassidiques qui se rendent dans la ville d'Ouman, et que c'était plus ou moins l'argument utilisé par l'Ukraine. Mais on voit que le sujet reste très important. Quand on voit le taux d'interception, on fait le calcul, je l'ai fait rapidement dans ma tête, on est à peu près à 95% selon les chiffres officiels d'interception en réalité. Parce que s'il y a 611
projectiles qui ont été détruits... Donc c'est une attaque qui a été plutôt bien gérée par l'Ukraine, malgré évidemment, on le rappelle,
Très rapidement, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire la différence entre la production de drones et de missiles. C'est les drones qui vraiment sont en train d'être produits en quantité gigantesque. Et on regarde, si on compare avec 2023 ou 2022, la quantité de missiles utilisés, par contre, elle chute. En réalité, il y a beaucoup moins de missiles qui sont utilisés au profit des drones. Donc oui, il y a une production accrue. Oui, il y a un usage accru en termes de moyens aériens, mais surtout au niveau des drones.
C'est vrai,
mais ils ont beaucoup de missiles. C'est tout à fait juste, et on sait que les stocks sont très importants.
Par ailleurs, le type de missiles utilisés change aussi.
Oui, c'est-à-dire absolument.
On voit des missiles, effectivement, qui sont en nombre moins important, vous avez tout à fait raison. Ce sont des missiles plus compliqués à gérer, les missiles hypersoniques, en l'occurrence.
Un petit mot sur la défense ukrainienne. Souvent, on fait la confusion par rapport aux Patriotes. Les Patriotes ne sont pas faits pour abattre les drones. Les Patriotes, c'est juste pour les missiles. Les missiles de croisière, les missiles balistiques, surtout les missiles balistiques. Les Patriotes, apparemment, sont très efficaces et presque à 100%. Donc, mais c'est le problème pour les Ukrainiens, c'est la quantité des petits missiles qu'il faut utiliser pour les drones. Et notamment en été, ce qui s'est passé avant la petite guerre de 12 jours d'Israël contre l'Iran, les Américains ont déjà quasiment été prêts à livrer aux Ukrainiens 20 000 petits missiles pour abattre les drones, et ils ont détourné complètement cette livraison vers leur position dans le Golfe pour justement cette intervention éventuelle. Et c'est ça où les Ukrainiens se sont retrouvés mais carrément dénudés, parce que ils peuvent pas se permettre abattre les drones avec les missiles de Patriotes,
oui, ça coûte
trop cher. Donc aujourd'hui, surtout le cœur du problème, c'est là. Il faut fournir aux Ukrainiens les moyens d'abattre les drones, parce que c'est vraiment les drones qui font beaucoup de dégâts. Et parce que heureusement, avec les Patriotes, on arrive déjà. Il y a, je crois, les deux ou trois dernières fois, les systèmes sont arrivés. Donc c'est une bonne nouvelle.
Marion Bûcher, c'est facile d'abattre un drone Shahed?
Quand on sait faire.
Oui.
Ça dépend avec quoi.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a un peu de mal à imaginer quasiment 600 drones Shahed qui sont lancés sur l'Ukraine. Est-ce que ça va particulièrement vite?
Alors, un drone Shahed, ça va pas très très vite. C'est vrai que la vitesse, c'est un facteur quand même de d'aisance pour détruire ou pas un objet qui vole. Ils y arrivent très bien. Après, effectivement, il y a la question de la fourniture des munitions pour arriver à les descendre. Pour ce qui est de la capacité de production russe, c'est quand même un sujet pour eux, puisque ils ont du mal à armer leurs usines. Ils recrutent en Afrique des ouvriers qu'ils font venir en Russie sous des prétextes qui ne sont pas guerriers et puis qui se retrouvent finalement à monter ces drones dans des usines que d'ailleurs les Ukrainiens ont très bien identifiées et ont attaquées aussi avec des drones depuis chez eux.
Et les enfants ukrainiens aussi d'ailleurs déportés qui travaillent dans ces usines.
Ils sont forcés de travailler dans ces usines.
Mais peut-être si je puis me permettre, il ne faut pas non plus négliger, je dirais aussi, les capacités propres des Ukrainiens. Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui fabriquent eux-mêmes plus de 50% des armes destinées à l'armée ukrainienne. Ils sont aussi à la pointe de l'innovation dans tous les systèmes anti-drones. Ils vont fabriquer, ce sera le chiffre à la fin de l'année, entre 3 et 4 millions de drones. Ils ont lancé les fameux missiles Flamingo qui seront opérationnels, qui vont l'être surtout à partir de l'année prochaine. Donc, en fait, ce dont les Ukrainiens manquent, c'est très souvent des financements pour produire davantage. Je rappelle aussi ce fait qui peut paraître aujourd'hui complètement surprenant, c'est que l'Ukraine exporte elle-même des armes et qu'elle fournit une assistance à un certain nombre de pays, comme par exemple la Pologne qui lui a demandé sa propre expertise. Donc, je veux dire, on est aussi dans une nation, mais effectivement, qui a quand même besoin aujourd'hui de financement et qui a besoin aussi quand même d'armes spécifiques, dont tous les systèmes anti-aériens, Patriot et autres, et bien sûr besoin de missiles à très longue portée. C'est-à-dire que si les Américains demain décidaient de fournir à l'Ukraine, on l'espère toujours, mais sans trop y croire malheureusement, des missiles Tomahawks qui ont une portée entre 2500 et 3000 kilomètres, là, ce serait un atout pour frapper encore plus profondément, ils le font déjà très bien, aux profondeurs, le dispositif militaire.
Guillaume Lascandjarias, vous nous écoutez, vous aviez envie de réagir.
Oui, en fait, en réalité, ce que l'on dit et ce qui est assez net, en réalité, on est dans des phases dynamiques pour ce conflit. C'est-à-dire que même si la ligne de front dont on parle relativement peu, finalement, est assez aussi bouge, notamment dans l'Est, on a quand même des incursions russes qui se multiplient. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce théâtre des opérations, il est caractérisé par, effectivement, comme le disait Nicolas Tenser, par une forme d'innovation extrêmement rapide de la part des deux camps. Et c'est ça qui, en fait, est extrêmement intéressant. On est dans une forme de course à l'adaptation. Et je crois qu'en réalité, même si le conflit, bien évidemment, n'est pas fini, il y a des leçons à prendre de ce conflit dont nous, Européens, nous aurions besoin. Alors, dans le domaine des drones, on le rappelait avec la Pologne, d'ailleurs, je vous en parle. Donc, effectivement, c'est un sujet ici qui est extrêmement, extrêmement fort. Mais plus largement, c'est la question de la capacité, en fait, à avoir un effort de guerre permanent dans la durée, avec des coûts qui sont aussi extraordinaires. Rappelons que abattre un drone avec un avion de chasse, c'est envoyer un missile qui coûte 1 million d'euros ou 1 million de dollars sur un drone qui en coûte à peu près 10 000.
Oui, c'est vrai que ça semble un petit peu gâché quand c'est on entend bon ça, fait. Marion Buchet.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que l'armée française a monté des canons de 20 mm qui ont 60 ans sur des véhicules pour pouvoir détruire des drones, puisqu'on travaille nous-mêmes à augmenter notre capacité de lutte anti-drone, qui est déjà pas mal, on l'a vu lors des Jeux Olympiques. Mais donc effectivement, il faut arriver... On est passé d'un paradigme où il fallait extrêmement peu d'équipement hyper sophistiqué à on voit qu'on a des gens qui font la guerre c'est vrai en Ukraine mais c'est vrai aussi au Yémen avec des matériels extrêmement basiques mais en très grand nombre et que ça fait aussi le travail.
On s'est un peu trompé en quelque sorte, Thierry Arnaud.
Oui, parce qu'on voit bien que c'est une...
Enfin, même si c'est facile à dire aujourd'hui. Enfin,
oui, mais on est en train de réécrire les paradigmes de la guerre aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce sont des armes qui sont asymétriques. C'est facile à produire, c'est facile à utiliser. Ceux qui les pilotent, si l'on peut dire, sont la plupart du temps abrités. C'est pas la même chose qu'envoyer un soldat sur une ligne de front ou un pilote dans un avion de chasse. Ils sont quelque part, parfois à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de kilomètres des drones qu'ils pilotent. Donc, on met pas la vie d'un soldat en danger, évidemment. Ça coûte, on l'a dit, peu cher à produire. Il y a beaucoup de modèles différents, mais ça va de quelques milliers à un peu plus de 100 000 dollars ou 100 000 euros pour les modèles les plus sophistiqués. Et en face, effectivement, les moyens pour les arrêter sont beaucoup plus complexes à déployer, beaucoup plus coûteux. Et pour l'instant, on est dans cette situation d'asymétrie. On est dans un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre qu'il faut arriver à rétablir progressivement. Et c'est là-dedans que l'Ukraine est engagée depuis plusieurs années maintenant et que les Européens sont en train de s'engager avec du retard, mais de manière assez massive.
Oui, je voulais rajouter exactement qu'aujourd'hui, Poutine, avec ses attaques de drones partout, en fait, qu'on attribue bien sûr aux Russes,
des incursions de drones partout, récentes, en Europe.
Malheureusement tous les jours, on en voit.
Au Danemark aussi, il y a quelques heures. Encore une fois, tout le temps.
Donc, c'est quelque part aussi une action pour montrer l'incapacité des Européens de réagir déjà, et aussi les Européens, je pense, ils doivent se rendre compte. Peut-être ils se sont rendus compte, je l'espère. Suite à l'attaque, la première attaque importante de entre 19 ou 23 drones qui ont attaqué le ciel de Pologne, on n'a pas encore des précisions. Donc, tous les moyens qui ont été utilisés par les Européens pour abattre, pour arrêter cette attaque, si on supposons qu'on utilise les mêmes moyens pour chaque attaque dans le ciel européen, donc les Européens vont épuiser toutes les ressources, je ne sais pas, en un mois ou peut-être un mois et demi, et c'est absolument impossible. Donc aujourd'hui, devant l'Europe, devant les armées européennes, il y a une tâche très complexe qui est posée, c'est de s'adapter à cette nouvelle guerre qui n'est absolument pas
et
la même.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir une réunion au Danemark
qui est absolument différente, parce que c'est même du point de vue et de militaire, mais aussi du point de vue de l'approche philosophique. Il faut accepter que c'est plus la même guerre. Il faut pas produire les chars en telle quantité, mais il faut vraiment changer complètement le système militaro-industriel.
Non, mais justement, on parle de 19 drones, et sur les 19, il y en a 3 ou 4 qui ont été détruits.
Donc voilà,
avec tous les moyens qui ont été mis en place. On parlait de justement l'inventivité ukrainienne, de l'ingéniosité ukrainienne. Les Ukrainiens ont créé des drones anti-drones qui sont de plus en plus utilisés. Donc si on parle de moyens de moins en moins coûteux, on voit qu'ils sont déjà déployés, ils sont produits de plus en plus.
Il faut suivre l'exemple ukrainien.
Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.